que ce livre, Les idoles du cœur, et j'ai du mal à avancer parce que, voilà, aujourd'hui je devais faire Jonas, hein, mais je vais pas encore le faire, donc il y a du suspense hein, pour ceux qui attendent Jonas, quelle est l'idole de Jonas hein. Tout simplement parce que on change d'idole, on change d'idole, on passe de l'idole individuelle, hein, l'idole qu'on a vue chez Abraham, chez Isaac, chez Jacob, etc., vers une idole qui est plus complexe et qui nous touche tous, bien sûr, qui est l'idole qui se trouve dans nos cultures. Alors, je vous invite pour bien défricher ce terrain des idoles de la culture à lire avec moi dans Exode 20, tout d'abord les premiers versets, hein, en fait ce sont les 10 commandements. Je suis l'Éternel, donc c'est Dieu qui prononça ces paroles, c'est pas un homme, c'est Dieu prononça ces paroles, et il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait. Donc l'Éternel, c'est Yahvé, hein, celui qui est, qui a été traduit par éternel en français. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation. Et où, ce qui est important, on pense qu'au statut. Enfin, maintenant, ça va faire 45 ans que je suis dans le milieu évangélique, et donc je connais un petit rayon de ce langage, de cette façon de parler. Et très souvent, on pointe du doigt les statues dans les églises catholiques, parce qu'on est une nation catholique. Mais vous savez, les statues, ça commence par des représentations qu'on se fait des choses. Hein. Avant que ça ne devienne une statue, avant qu'on fabrique la statue de Marie. Alors, juste pour ceux qui, puisqu'on est dans la culture, ceux qui savent pas, au bout de la rue, là, il y a une église qui est tout en béton. Tout béton. C'est la première église de France qui a été faite en béton. C'est-à-dire que voilà, tous les murs sont en béton, les fondations sont en béton, le toit est en béton, les statues sont en béton, et ils ont été faits par imprégnation avec les mains, vous voyez, pour les faire. Et c'est pour ça que quand l'Église catholique a voulu s'en débarrasser, parce qu'elle tombait, se fissurait de partout, parce que le béton c'est pas très solide aux intempéries, hein, ça bouge, ça, etc. C'est le Conseil général, ou je sais plus, enfin en tout cas l'État qui a repris pour un franc symbolique et l'a remis en état. Mais voilà. Donc, vous voyez, avant qu'une statue ne sorte, il y a une intention. Comment est-ce qu'on veut représenter les choses saintes, etc. Voilà. Et nous avons tous... Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'imagination ici? Lève la main. Qui n'ont pas de cervelle, là. Vous avez tous une cervelle? Non? J'espère. Même si c'est un point chiche, mais non, mais pas vous. Voilà. Mais chaque cervelle, la première des choses que la cervelle fait, elle imagine. Vous voyez ? Donc vous avez tous de l'imagination, ok ? Voilà. Et donc on imagine. Et je suis sûr que vous avez tous imaginé comment est Dieu, non ? Hein, Solange ? Hein, on s'imagine. Bon, mais rassurez-vous, on peut pas savoir qui il est. Hein. On le saura que quand on le verra, et encore, comme il brille comme le soleil, on aura même du mal. Bon, il faudra encore transformer hein, pour le voir. Mais nous avons tous une capacité d'imaginer. Hein. Alors pour ceux qui veulent creuser un peu cette notion d'imagination, lisez Leanne Payne, et bien sûr, qui est disciple de C.S. Lewis, hein, qui parle beaucoup d'imagination, hein, je ne me trompe pas. Voilà, ceux qui sont les lecteurs de Leanne Payne. L'imagination est le propre de l'homme. Vous savez, les animaux, les chiens, les chats, tout ça, voilà, ils ont aussi une cervelle. Hein. Même les crocodiles. Hein. On a appris que Samuel, on l'a eu sur Skype, il a dit: oh, j'ai peur. Parce qu'à l'endroit où je me baigne habituellement, c'est très très sympa, il y a des bateaux et tout ça. La semaine dernière, il y a un gars qui a plongé, puis paf, il s'est retrouvé nez à nez avec un requin. Voilà. Heureusement, par la grâce de Dieu, il a pu, je sais pas, faire quelque chose. Enfin, le requin est parti. Mais il a dit: moi aussi, il me baignait là. Voilà. Donc, Même un requin, un crocodile, la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est un crocodile qui a mangé quelqu'un, et ils ont ouvert le ventre, ils ont trouvé les restes à l'intérieur. Voilà. Même les crocodiles, ils ont une cervelle. Mais on voudrait pas leur ressembler, hein, à cette cervelle-là. Hein. Donc, le propre de l'homme, hein, mais vous voyez, il y a des crocodiles chez les humains. Hein, pensez au régime nazi, hein, c'était des crocodiles. Hein. Et il n'y a pas que le régime nazi, hein, ça continue aujourd'hui. Hein. Je ne citerai personne, vous le savez. Mais le propre de l'homme, contrairement à l'animal, qui lui domine, qui lui mange pour survivre, qui lui défend son territoire par la force qu'il a, l'homme, il a la capacité d'imaginer. Formidable, ça. D'imaginer. Voyez-vous ? Et comment vous le savez que l'homme peut imaginer ? Quels sont les résultats concrets de cette imagination de manière tout basique ? Tout basique. Voilà, voilà. Voilà. Simplement les outils. Les outils. Imaginez un outil. Hein, c'est bientôt les vacances. Vous allez vous promener un petit peu au Fou du Roi, pour certains. D'autres, en Alsace, il y a la volière aux aigles, des choses comme ça. Hein, et vous voyez les premiers outils qui sont fabriqués par des animaux. Simplement, ils prennent un morceau de caillou, par exemple un oiseau, je ne sais plus si c'est... qui prend un caillou avec son bec et qui casse l'œuf. Vous voyez, qui casse pas avec son... Ça, c'est un outil. Donc, ça permet d'imaginer le fait que quelque chose de dur va casser quelque chose de fragile. Voilà. Mais c'est l'embryon. Je pense que vous êtes capable d'imaginer des outils un petit peu plus élaborés, hein, pour travailler la terre, pour voilà, faire du scrapbooking, pour voilà. Vous voyez, c'est ça l'imagination. Ça sert à quelque chose. Hein, c'est pas simplement imaginer pour imaginer. Hein. Alors je sais que le monde des médias, ça entretient un petit peu plus de rêves, mais déjà là, au niveau de l'utilité naturelle, l'imagination permet de faire des choses que l'animal ne peut pas faire. Et c'est pour ça que Dieu l'a placé au-dessus des animaux. Et c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme le rôle de, alors c'est marqué dominer, mais dominer depuis 6000 ans, je ne sais pas combien, de la Genèse, cette domination s'est transformée en autoritarisme. Hein, mais la domination conçue telle que Dieu l'a fait, c'est de gérer, d'être au-dessus de quelque chose. Voilà, de prendre soin, hein, comme Dieu l'a établi dans le jardin. Voilà. Alors je disais ça, je ne sais plus pourquoi, pour mettre l'accent sur la capacité de l'homme qui, lui, a cette imagination de se représenter des choses. Et Dieu a dit, ne vous faites pas de représentation de Dieu. Ne vous faites pas de représentation de Dieu. Parce que chaque représentation que vous faites, vous risquez de vous attacher à cette représentation. Or, Dieu n'est pas limité à une représentation. Moi, je peux, par exemple, dessiner un dieu de justice. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un glaive avec un dieu de justice. C'est ce que vous voyez parfois dans les cathédrales ou les machins, etc., des iconographies qui représentent un élément. C'est pas faux, mais c'est pas ça, Dieu. Qu'est-ce qu'il est, Dieu, Elsa, en dehors de la justice? L'inverse de la justice. Et l'amour, voilà. Vous voyez, donc, il faut que je représente Dieu avec la justice et aussi le Dieu de l'amour. Alors, on a Dieu de l'amour. Mais si je continue comme ça, il y a tellement d'attributs que finalement, vous allez faire un dessin qui... vous ne voyez plus rien. Parce qu'il est amour, il est justice, il est... pardon ? Voilà. Et énormément de choses. Ok ? Donc voyez-vous, la représentation en elle-même, c'est pas un péché. Il faut s'élever un peu, hein, nos trucs basiques là, évangéliques. C'est le fait que une représentation humaine limite Dieu. Et à ce moment-là, ce qui est bon, par exemple la justice, hein, les Français sont très à cheval sur la justice, ou l'amour, on va s'attacher à ça et négliger le reste. Or Dieu n'est pas ça. Dieu est tout en même temps. Vous voyez, il n'est pas humain, il n'est pas limité. Et donc, ce qui est bon, on va s'attacher à ce qui est bon, on va mettre l'accent sur ce qui est bon. Et ça va devenir une idole. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit, quelqu'un d'éminent, a dit que l'âme humaine est une fabrique d'idoles. Elle fabrique sans arrêt des idoles. Donc on est en se penchant vers l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on est dans des paradoxes. Le paradoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une chose et son contraire en même temps. Les paradoxes. Et tout à l'heure, je vais simplement commencer ce message sur la culture. La culture est un paradoxe. Alors, j'aime pas trop les messages, même si j'aime beaucoup d'Eric Prince, hein, mais les messages qui sont un peu trop simplistes, hein, parce que là aussi, voilà, on déforme les choses. Hein. Par exemple, dire la culture, c'est diabolique, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que dans la culture, c'est vrai que Satan, bien sûr, il s'infiltre dans la société humaine et il va, dans la culture, amener des choses qui sont pérennes, qui se transmettent d'une génération à l'autre et qui maintiennent les gens dans l'esclavage. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas que ça. La culture, c'est aussi l'adhésion d'une communauté, c'est la formation d'une communauté, parce qu'on n'est pas qu'individu, on est ensemble un corps, on est ensemble une nation, on est ensemble un peuple, on est ensemble, voilà, des sociétés. Et là, c'est la culture qui nous rassemble, oui, et des cultures différentes. Entre la France, la Chine, l'Australie, la Corée, etc. Oui. Voilà. Donc on est dans des paradoxes, et donc on peut pas faire du simplisme. Hein. On peut pas être simpliste. Si on est simpliste, on se coupe nous-mêmes d'une richesse que Dieu a faite. Voilà. Donc il faut voir les choses, surtout dans le domaine de l'idole de la culture. C'est pour ça que je ne l'aborde pas tout de suite concernant Jonas, parce que je voudrais bien qu'on comprenne que c'est pas à jeter au panier. Hein. Alors il y a des chrétiens qui jettent au panier des choses, hein, parce que le prédicateur a dit ça, et en fait ils se retrouvent lundi matin complètement paumés. Dans la réalité, parce qu'il y a les gens en face de lui, et voilà, il n'est pas dans un microcosme de l'Église, il n'est pas dans une bulle. Hein, vous sortez de la bulle, parce qu'ici tout est bien, des frères et sœurs, vous aimez, c'est super. Mais dans le monde, c'est pas comme ça, hein, Laurence. Voilà. Donc, il faut être armé, il faut savoir à quoi on a affaire. Alors, je continue à lire. Donc, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne le rendras pas un culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous savez, c'est très facile de pointer du doigt, hein, mais quand on pointe du doigt, il y en a quatre autres qui pointent vers moi. Donc c'est embêtant. Il vaut mieux pas pointer du doigt. Hein. Il vaut mieux rester humble, parce que nous avons tous nos défauts et nos imperfections. Et quand le Seigneur dit « tu ne rendras pas un culte », c'est que nous avons tendance à donner des cultes, même nous, chrétiens évangéliques. Et c'est ça qu'il faut débusquer pour enlever toute idole, parce que le Seigneur ne peut pas faire alliance avec les idoles. Le Seigneur a un peuple, c'est nous, et il veut que cette alliance soit pure, qu'il n'y ait pas de prostitution. Et quand on fait alliance avec une idole, on se prostitue, et on a besoin de se purifier. Alors le deuxième passage qu'on va lire pour cette introduction, c'est Matthieu. Donc dans Matthieu chapitre 5 verset 21, c'est le sermon sur la montagne. Vous le connaissez, il est long. Hein. Alors on ne va pas tout lire ce matin. Mais on va lire quelques extraits. Au verset 21, Jésus, après avoir parlé de ce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, etc., il dit au verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre est passible de jugement, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira son frère Raca sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la Géhenne, du feu. Si donc tu présentes ton offrande, etc. Voilà. Ensuite après, verset 27, vous avez entendu qu'il était dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, etc., etc. On pourrait lire au moins jusqu'au verset 43, dans cette même veine. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? Qu'est-ce qui vous frappe avec cette lecture rapide que je viens de faire, hein, elle n'est pas approfondie, mais vous avez les éléments qui devraient vous interpeller dans ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il met en cause? Quel est cet élément qui est culturel, hein, puisque là j'introduis les idoles de la culture, quels sont les éléments que vous remarquez de la manière dont Jésus dit les choses? Timothée, il dit quelque chose, non? J'ai déjà prêché là-dessus, hein, donc ça devrait vous mettre sur les pistes. C'est des messages qui sont assez basiques. Pardon? Le cœur. Oui? Pas l'esprit de la loi. Alors, comme les Béréens, attachez-vous au texte, parce que le texte contient les réponses. Il suffit de bien lire le texte et vous avez la réponse que j'attends de vous, simplement parce que c'est pour mettre l'accent sur la parole. La parole, pardon. Voilà. Et ça se traduit par quoi dans le texte? Comment tu l'as trouvé, ça? Voilà. Voyez, c'est ce thème qui revient dans tous les versets jusqu'à 43, lisez-le. Hein. Là, Jésus change de ton. C'est-à-dire que le ton précédent, lisez l'ensemble du chapitre. Hein. Voilà, là, vu le temps, je ne peux pas lire tout le chapitre 5 de Matthieu, ou le 6. Mais là, Jésus, il change de braquet, comme on dit. Vous voyez, ceux qui font du vélo, paf, vous montez la côte, vous changez de braquet. Hein, parce que le grand braquet de la plaine, là, vous arrêtez. Vous ne montez pas la côte. Là, il faut monter la côte. Hein. Jésus monte la côte. Et en montant la côte, il dit « Il vous a été dit ». Alors, je vois Abigail. Est-ce qu'il t'a été dit quelque chose dans ta culture, dans ta famille? Je fais partie de la culture. Est-ce qu'il t'a été dit quelque chose de pas se venger? Voilà. Voilà. Il t'a été dit des choses. Hein, voilà. Donc, mais c'est bien. S'il a voulu que je te donne des détails, si on avait plus de temps, on pourrait faire de l'interactif plus long. Mais c'est pour dire que chacun d'entre vous, Rémi, il t'a été dit des choses dans ta famille, dans ton environnement, dans ton école. On nous dit des choses. La preuve, c'est que l'école est là pour ça, non? Allô? Vous êtes là? L'école est là pour ça, pour nous dire des choses. Et en plus, il faut écouter, sinon hein, on reçoit sur les doigts et c'est pas bien. Ok, voilà, on nous dit des choses. Jésus l'a dit, il vous a été dit. À l'école du dimanche, à la messe, au temple, quelle que soit votre origine, il vous a été dit des choses. Et qu'est-ce que Jésus dit, Marie-Renée? Non mais, tu as lu la Bible? Mais moi je dis, relisez, écrivez ça pour que ce soit des clés. Vous savez, il faut des clés de lecture. J'appelle ça des clés de lecture. Si vous n'avez pas de clés de lecture dans la Bible, vous passez à côté. Alors, ce qu'on appelle des révélations, si vous voulez. Bon, c'est une autre manière de parler de révélation. La révélation, c'est d'un seul coup, il y a une clé de lecture. Paf. Ah. Ça fait 36 000 fois que je lis ce texte, je n'ai pas compris. Ok? Ça, la révélation. Moi, j'appelle ça clé de lecture, c'est la même chose. Ok? Une clé de lecture que vous avez reçue ce matin par le Saint-Esprit, c'est « Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. » Qu'est-ce qu'il y a entre les deux phrases? Le « mais ». C'est quoi le « mais », Jean-Claude? Ça veut dire quoi, le « mais » ? Ça veut dire que Jésus n'est pas d'accord. Bah, s'il dit mais. Oui, mais. Et les enfants qui vous disent oui, mais. Hein? Ah, tu viens, hein, Ruth, tu... Allez, venez faire la vaisselle. Vous dites oui, mais. Oui, mais quoi? Oui, parce que je suis en train de jouer sur mon, hein, mon truc, les petits machins là. Hein? iPod, iPad, je sais pas quoi. Oui, mais. Ça veut dire que oui, oui, mais je suis pas d'accord tout de suite là. Hein? J'ai autre chose à faire. Ok? Voyez, il faut lire la Bible simplement, simplement, telle qu'elle est écrite, hein, parce qu'elle a une signification. Jésus dit, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Est-ce que là, il faut que nous, on écoute quand Jésus dit, mais moi? Pourquoi? Parce que Jésus interprète ce qui a été dit autrement. Allô? C'est un problème d'interprétation. Souvent, c'est pas le fond qui change, c'est la manière dont on le comprend ou on doit le comprendre. C'est la différence entre l'esprit et la lettre. Non. L'esprit et la lettre. La lettre tue. Dis-le à ton voisin. La lettre tue. Voilà. Mais est-ce que très souvent, nous, on ne fait pas la lettre avec nos enfants? Avec notre conjoint. Hein. Oui, parce que parfois on fait des raccourcis. Hein. Ouais, fais ça. Oui. Mais vous savez, avec Dieu, si on reste sur la lettre, on est mort. On est mort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'appliquer, la lettre. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des commandements. Les 10 commandements. Vous les suivez? Vous les suivez tous, Josué? Sans aucune faille? Hein? Donc tu es pas mieux que les Juifs alors? Oh, moi je te croyais parfait. Je plaisante. Non, on n'est pas mieux que les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ou nous, on est dans la chair, on est pécheurs. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait la lettre. Et il fallait obéir à la lettre. Et le moindre écart pour avoir la lettre, il y avait un péché. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour expliquer le péché? Il fallait faire un sacrifice. Tu aurais dû faire des élevages de poulets à l'époque. Hein, oh lolo. Hein, pour trouver tous les trucs des sacrifices, des animaux. Ok? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu une fois pour toutes, dans toute l'histoire de l'humanité, et c'est lui qui est l'ensemble de tous ces sacrifices qu'on devrait faire, qu'on n'a pas besoin de faire, pour effacer le péché. Pour effacer la faute de ce qu'on devrait appliquer et qu'on n'applique pas. Et très souvent, parce qu'on ne comprend pas l'esprit de la loi. On ne comprend pas l'esprit de la loi. Dieu a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui sont très bien intentionnés. Alors on va le faire prochainement avec Michel. On les prépare au mariage. Et un des points élémentaires qu'on fait dans un cours de mariage, c'est quoi? Oui, mais c'est qu'on fait la différence entre vénérer et honorer. Vous voyez la différence, non? Les subtilités là. Bon, beaucoup de chrétiens qui font pas la différence. La Bible dit, tu honoreras, pas vénérer. Vénérer, c'est adorer. Bien, Elsa. Vénérer, c'est adorer. Il n'est pas dit, tu adoreras ton père et ta mère. Alors? Ah, moi j'adore. Bah oui, c'est une expression, mais il y en a qui adorent. Hein? Moi, ça m'a frappé. Je ne sais pas si vous étiez là quand les policiers, je ne sais pas quelle police... a tué le grand braqueur là. Mesrine. Pardon? La PJ. C'est ta police, toi? Bien. Voilà, ils ont abattu Mesrine. Gangster. Et qu'est-ce qu'elle a dit, sa mère? Sa mère, la mère de Mesrine. Vous vous rappelez plus? Oh, ça m'a frappé. Sur la radio. Pardon? J'adore mon fils. Il a rien fait. Et il a attaqué la police, elle a attaqué la justice. Alors, ouais. Vous voyez, la mère, elle vénérait son fils. Ah bah oui, parce que c'est comme dans la mafia. Hein. Quelqu'un qui est un grand voilà tueur, hein, c'est l'honneur. Hein, l'honneur. Hein. Donc on vénère. Et sachez que dans l'éducation des enfants, s'il y a un élément de vénération, et on a tendance à vénérer, c'est en nous, hein, à vénérer, bah, regardez Abraham, il a vénéré son fils. Hein, on l'a fait, l'idole. Oui, bien sûr. Et ça, la société le fabrique. Vénérer, c'est une idole. Honorer, c'est autre chose. C'est quoi la différence d'honorer Arnaud? Si tu honores ton père et ta mère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de les reprendre? Ouais. Voyez-vous, quand on honore quelqu'un, on reconnaît ce qui est bien, mais on reconnaît aussi ce qui est mal. Voyez-vous, quand on vénère, tout est bien. Alors, vous voyez, les historiens, ils vénèrent l'histoire. Il y a des oublis. Hein, comme en Géorgie, ben, les Russes n'ont rien fait. Hein. C'est des petits enfants de cœur, les Russes. D'ailleurs, on le voit. Très gentil. Vous voyez, la vénération, ça amène un aveuglement sur les choses, sur la réalité. Honorer, c'est-à-dire dire on honore ses parents, dire on met du poids, la pondération, ça s'appelle du poids. Pondération. Honorer, c'est faire du poids, donner du poids à ce qu'ils ont fait de bien, mais on laisse de côté. C'est-à-dire que on est humain, donc on ne va pas faire de reproches. Nous-mêmes, on a des reproches à nous faire, donc on n'a pas à s'occuper des reproches. Mais voilà, on les élève pas, ces reproches-là. Mais on s'éloigne pas des parents. Simplement, on dit ce que tu as fait, c'est bien. Et doit être capable, quand on est adulte, de dire papa, ce que tu as fait, c'est bien, dans ce domaine-là. Ouais. Mais c'est pas facile, parce que ça demande de l'humilité, même pour moi, de l'humilité, parce que j'étais blessé par des choses qui sont pas bien. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous apprend à être humble. Hein. Vous savez, l'humilité, tout le monde veut être humble. Hein. Ça, c'est clair, un chrétien. Mais pour le devenir, il faut passer par des stades où nous sommes humiliés, où nous nous humilions nous-mêmes pour passer sous le trou de l'aiguille du chameau. Hein? Vous savez, à Jérusalem, il fallait que les chameaux ils se baissent, hein, pour passer sous la porte, quoi. Hein? C'est ça, passer dans l'aiguille. C'est pas la petite aiguille là que vous avez. Vous voyez, on pense que c'est le chat de l'aiguille là. C'est pas ça. C'est une porte à Jérusalem. Et ça, c'est ça que ça veut dire. Donc l'humilité, ça passe par des actes. Je dis à mon père, ce que tu as fait, c'est bien. Même si 90% des choses qu'il a fait, c'est mal, ben, j'en parle pas. Je vais pas honorer ce qui est mal. Je vais pas pondérer ce qui est mal. Mais je pondère ce qui est bien. Et quel est l'avantage de faire ça? Ben, si je dis à mon père, tiens papa, ce que tu as fait, c'est bien. Ben, ça va l'encourager à continuer à faire le bien. Et vous avez tout gagné. Vous avez vous gagné parce que vous allez récolter des fruits de cette amélioration. Et lui-même, vous allez le faire entrer dans une démarche d'amélioration. Alors, gain, win-win. Hein, Olivier? Win-win. Il faut toujours gagner. Des deux côtés. Non, mais c'est ça. Vous savez, l'entreprise, elle découvre des choses qui sont marqués dans la Bible. Le drame, c'est que l'Église n'a toujours pas compris. Et les pasteurs non plus. Moi, j'étais dans l'industrie. J'ai fait toutes mes années dans l'industrie. J'ai appris plus de ce côté-là dans l'industrie que dans l'Église. Et ce que je vous apporte, c'est parce que j'ai appris des choses que je n'ai pas apprises dans l'Église. Pourquoi? Parce que dans le monde, on cherche à être scientifique. La science, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est une démarche. On cherche la réalité pour pas dire de sottises. On vérifie si c'est vrai. Et ce qu'on découvre, c'est ce que Dieu a fait. Donc on découvre des lois. Hein? Des lois, c'est tout. Des lois. Et Dieu a fait des lois physiques, mais il a fait des lois humaines aussi. et des lois sociales, imaginez, et des lois artistiques, et des lois dans tous les domaines. Les lois, c'est ce qui fait fonctionner les choses. Et quand on les découvre, ben on est heureux et on devient libre. Alors, c'est ça. Et l'Église, ça doit être une communauté de gens libres et pas de gens aliénés. Et je suis profondément blessé de ce que beaucoup d'Églises développent des sous-cultures évangéliques. Ils pensent être libres et en fait, ils sont complètement esclaves de leur culture interne, ce qu'on appelle la bulle chrétienne. Non, Dieu nous a fait, non pas pour être dans une bulle, Dieu nous a fait pour être libre. Dis-le à ton voisin, Dieu t'a fait pour être libre. Et être réellement libre. Amen. C'est ce que Dieu a voulu faire. Alors quand Jésus dit, il vous a été dit, ben il parle de la culture, que ce soit la culture du monde, ou que ce soit la culture religieuse, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Simplement, la culture religieuse est une sous-culture de la culture du monde. Et Jésus dit, mais moi, je dis, ça veut dire qu'il réinterprète les choses de la loi que son père a fait pour dire, maintenant, voilà, ça c'est l'esprit qui est derrière la loi. Et quand Jésus voit venir une femme, une prostituée, tout de suite, les pharisiens vont dire, ben voilà, on peut le crucifier, il fréquente les prostituées. Ben voilà, je vous l'avais dit, dans leur sous-culture religieuse, il s'en a parlé, vous allez voir, on va le coincer le gars, mais oui, il va fréquenter les gens de mauvaise vie, moi je l'ai vu là-bas à Jérusalem, il était avec un tel et tout ça. Mais oui, et puis quand publiquement il y a une prostituée qui est venue, bah il était pas comme Pierre, hein. Pierre, il était trouillard. Hein. Oh là là, ah, il était juif, mais les païens, oh. Paul dit, mais Pierre, ça va pas là? Et ça va pas la tête là? Tu prêches un truc et tu fais autre chose? Non, non, là, Pierre, il a été réajusté, hein, le premier pape là, paf, réaligné, c'est Paul qui l'a repris. Hein. Mais Jésus, lui, il était cohérent. Cohérent avec sa foi, avec la relation avec son père. Et cette prostituée, devant tout le monde, ben, il l'a traitée comme s'il l'a traitée en privé. Et bien sûr, ça a choqué les pharisiens. Parce que ça a choqué leur culture, leur conception. On ne fréquente pas les prostituées. On ne fréquente pas. Nous, on est mieux. On respecte toute la loi. Et nous, on est des gens bien. Alors, vous voyez la culture ? Je vous donne un aperçu de la culture. Mais ce n'est qu'un aperçu. On va aller plus loin. OK ? Et Jésus dit, mais moi, je vous dis, et il donne l'esprit, la loi. Il dit, cette prostituée, eh bien son cœur, moi je le vois, son cœur. Son cœur, c'est qu'elle aime Dieu. Qu'elle aime vraiment la justice. Et voyez le cœur. Et Jésus, voyez le cœur. Et il a accueilli. Et cette femme a versé le plus grand parfum, tout l'argent qu'elle avait, sur les pieds de Jésus. Et Jésus a dit, pendant tout le temps de l'Église, on parlera de cette femme comme un exemple d'amour pour Dieu. Amen. Voyez la différence entre la culture, y compris religieuse, et surtout religieuse, parce que le plus gros problème que Jésus a eu, c'est avec les gens religieux. C'est pas avec les autres. Et avec l'esprit, la loi. Les idoles culturelles sont les plus difficiles à démasquer. Les plus difficiles à démasquer. Parce qu'on ne les voit pas. Parce que celui qui est à côté, tu vois, Elsa, tu as Abigail à côté, bon, tu as un comportement culturel de française, et c'est normal, parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans certains aspects, c'est très bon. Mais s'il y a un écart par rapport à une idole culturelle, tu ne vas pas le voir parce que ça se mélange, parce que tout le monde fait pareil. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et du coup, on ne le voit pas. Personnellement, si par exemple Abigail mentait comme elle respire, c'est pas le cas. Hein. Tu lui dirais, mais attends Abigail, non, une chrétienne, voilà. Oui, ça choque. Hein. Ça choque parce qu'une idole personnelle, tu le détectes. Une idole culturelle, c'est plus sournois. C'est plus sournois. Voyez. Et nous, dans l'église, on avait une Africaine qui faisait de l'intercession, mais je ne sais pas combien d'heures, hein, c'est incroyable. Une fille modèle. Mais quand on parlait de l'Afrique, elle disait, ah non, non, il ne faut pas toucher aux cultures africaines. Elle dit, mais attends, ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Ah mais non, mais chez nous, c'est comme ça. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, bon, il ne faut pas toucher. Ok, mais c'est anti-biblique, mais il ne faut pas y toucher. Hein, culturellement, il faut respecter. Alors on lui disait, mais nous, on est français. Nous, on cherche à voir ce qui ne va pas entre la culture française et le royaume de Dieu. Et on ne l'accepte pas, si c'est un écart. On fait cette analyse. Donc toi aussi, tu peux le faire. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Voilà. Donc, vous voyez, l'idole culturelle est quelque chose de difficile à débusquer. Et Jonas, et je terminerai là-dessus, est tombé dans ce piège de l'idole culturelle. C'est un prophète, attention. Jonas, ce n'était pas un vulgaire juif. Il était prophète. Et il a prophétisé des choses au roi qui se sont accomplies. Et ce prophète-là était piégé par l'idole de sa culture. Amen. Donc on en parlera plus dès que le moment sera arrivé, parce que je n'ai pas encore fini de vous parler de la culture. Et l'Église, elle doit être une koinonia. Dis à ta voisine, l'Église doit être une koinonia. C'est quoi la koinonia? Alors c'est du grec, hein, c'est du grec, mais parce que la Bible est écrite en grec. Hein. Elle est écrite en grec. Et c'est le mot qui est utilisé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle les mots français, ils veulent dire tout à fait autre chose, parce qu'ils changent de conception, de sens, quoi, avec les siècles et tout ça. Donc on revient au grec, comme les réformés, comme la réforme, les pères de la réforme. Koinonia, c'est utilisé par exemple dans Actes des Apôtres, le premier rassemblement des chrétiens, l'église primitive. C'était marqué, ils se sont réunis en koinonia. Et c'est quoi la koinonia? C'est la communion. Dis à ton voisin, c'est la communion. C'est une assemblée de communion. Vous voyez? Dans le mot communion, il y a quoi? Il y a le mot commun, union, etc. Donc c'est ensemble. Ils avaient ensemble, c'est marqué après, hein, après koinonia, c'est expliqué ce que veut dire koinonia, donc on a la définition, pas besoin de regarder le Larousse. C'est ils étaient ensemble d'un même cœur, d'une même pensée, ils mettaient tout en commun, etc. Vous voyez, c'est ça la koinonia. Et pourquoi on n'a pas le mot en français? Parce qu'on ne le vit pas. Si des chrétiens aujourd'hui vivaient la koinonia, on pourrait utiliser ce mot-là, tout le monde comprendrait. Mais on est obligé de revenir en arrière pour imaginer ce que c'est, parce que la Bible montre une véritable koinonia. Hein? Et l'Église doit être une koinonia, une communion de frères, mais, paradoxe, mélangée à la culture. Waouh! Ça, c'est fort. Mélangée à la culture. Parce que l'Évangile s'adresse à la culture et s'adresse à l'extérieur là-bas. Il faut que je sorte de la porte et que je parle de l'Évangile. Et donc, il ne faut pas que je sois contaminé par la culture pour ne pas ramener des idoles, mais il faut que j'aille dehors pour influencer ceux qui sont dehors. Vous voyez? C'est ça le paradoxe. Avec la culture du royaume, on y vient. Amen. On va s'arrêter là, parce que sinon, je ne vais plus m'arrêter, j'en ai pour 10 heures. Mais on est dans le royaume. Amen. Et on va rester dans le royaume, et on va chasser toutes les idoles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur ne fait pas alliance avec les idoles. Si nous on fait alliance, lui ne le fait pas. Et il faut qu'on se sépare des idoles. Prions un instant. Et on va faire la scène après. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu unique et tu es jaloux, non pas d'une jalousie mauvaise, mais tu sais que toutes les idoles nous tirent en arrière, nous amènent, Seigneur, à la prostitution, à l'égarement, et tu ne veux pas ça pour tes enfants. Tu veux que nous soyons, Seigneur, en pleine communion avec toi, gardés de tout mal, Seigneur, et gardés surtout des pièges de l'ennemi. Et Seigneur, toutes les idoles nous amènent en arrière vers des pièges que l'ennemi nous tend. Alors Seigneur, te demandons aussi de nous aider à comprendre ces idoles de la culture, afin que nous ne soyons pas comme Jonas, et que nous ayons à l'opposé de ce que tu nous demandes, mais que nous allions dans la direction que tu nous demandes, même si ça heurte notre culture, si ça heurte, Seigneur, nos idoles. Nous voulons être délivrés et nous te le demandons, Père, au nom de Jésus.